Europe 1 Culture Média.
Bonjour, pardon, bonjour à toutes et à tous. On fait plein de choses en même temps dans ce studio. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, média et culture au sens large. Vous retrouverez par ordre alphabétique et d'apparition Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences télé d'hier soir, Bruno Denet pour ses télescopages et Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage. Notre info média va célébrer le premier anniversaire de l'hebdomadaire Franc-Tireur qui publie un numéro hors série consacré aux lanceurs d'alerte. Il les fait remonter à la mythologie grecque. Quel rapport entre Cassandre et Greta Thunberg? Réponse avec l'un des créateurs de Franc-Tireur, Raphaël Antoven. Nos invités ensuite, Antoine Dabin et Jean-Michel Venemani. Ce sont les réalisateurs d'une série documentaire en 4 épisodes, Devenir ostréiculteur. Ce sera ce soir à 21h sur France 5. Question: comment intéresser le public en filmant des huîtres qui sont au passage la plupart du temps sous l'eau? Eh bien, c'est justement ce qui nous a passionnés dans ce doc. Enfin, le cinéaste Christophe Honoré pour l'un de ses films les plus personnels, Le Lycéen, avec Vincent Lacoste et Juliette Binoche, ça sort mercredi. Il raconte ses années de lycée avec un drame dans sa vie, la mort de son père alors qu'il n'avait que 17 ans. Son rôle est incarné par le jeune Paul Kircher, très impressionnant. Il sera également avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
La gagnante de la Star Academy en interview dans ce journal pour Culture Média. On parle aussi de TF1 qui accuse Cyril Hanouna et donc C8 de diffuser des fausses informations. Disney serait sur le point de s'entendre avec TF1, France Télévisions et M6. Et puis en fin de journal, le point que vous attendez Philippe tous les jours, le point Twitter Elon Musk.
Je ne pensais pas qu'il y en a encore un ce matin, lundi. D'abord on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé le match sur TF1, hein, c'était Espagne-Allemagne, 7 480 000 téléspectateurs. Hier soir, c'était une grosse affiche.
Gros match.
Et ça a payé en audience, hein, 30,4% de part d'audience. C'est d'ailleurs le meilleur score, enfin la meilleure audience, on va confondre le vocabulaire, hors bleu évidemment. Deuxième, c'est France 2 qui est proposé un film. Et à noter pardon, que TF1, je te rappelle que c'est à 20h, hein, donc on ne peut pas exactement comparer avec les autres chaînes. France 2, c'était le film La chance de ma vie, 3 150 000 téléspectateurs, 14,2% de part d'audience. C'est un bon score pour un film sur France 2. Et puis troisième, c'est France 3, c'est l'ordre de la télécommande ce dimanche. Inspecteur Barnaby, 2 560 000 téléspectateurs, 11,5% de part d'audience.
Et ce week-end, que faut-il retenir, Louise?
Bon, d'habitude, le lundi matin, je vous parle quasi systématiquement du carton des polars de France Télévisions et des deuxièmes places pour les divertissements de TF1. Eh bien, cette semaine, le mondial vient bousculer les habitudes. C'est TF1 qui a atteint le haut de classement les deux soirs grâce à des matchs de foot en face. France 2 résiste bien quand même avec sa série Cassandre samedi soir et puis la rediffusion d'un téléfilm vendredi. À noter aussi que toujours sur TF1, la finale de la Star Academy a été bien suivie alors qu'elle était diffusée à 22h seulement à cause du mondial, suivie par 3 770 000 téléspectateurs, 25,7% de part d'audience. Et surtout, ce qui importe pour TF1, elle bat son record sur la cible commerciale, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 44,1%, c'est la meilleure audience depuis le lancement de l'émission cette année. Je n'oublie pas aussi de vous donner la plus grosse audience du week-end, le très bon score du match des Bleus contre le Danemark, c'était samedi après-midi, 11 590 000 téléspectateurs et Philippe Vandel, et surtout une excellente part d'audience de 62,8%.
Le journal des médias.
Samedi soir, c'était la finale de la Star Academy sur TF1 et les téléspectateurs ont choisi la gagnante parmi les 4 candidats restants et c'est Anisha qui l'a emportée.
Dire qu'elle avait hésité à participer à la Star Academy, elle l'a finalement remportée samedi soir avec un trophée remis par le parrain de la promotion, Robbie Williams.
The winner of Star Academy 2022 is Anisha.
Anisha remporte la Star Academy. Anisha, venue avec ses doutes, ses rêves, sa fragilité et sa puissance.
Anisha, 22 ans, jeune femme originaire de Madagascar, venue étudier en France. Et quelques minutes avant le résultat, elle avait notamment tenté de convaincre les téléspectateurs avec une reprise d'Alléluia.
Hallelujah!
Et Anisha, une forte voix comme vous l'entendez, ouais. Une personnalité. En revanche, loin de l'image des candidats de certaines téléréalités, une jeune femme introvertie, elle le dit elle-même, souvent filmée dans son coin, en train d'écrire, de jouer au piano, de travailler aussi. Elle avait d'ailleurs confié dès le premier prime, appréhender la vie en communauté car elle aime passer du temps seule. Robbie Williams a dit d'elle samedi soir, elle est timide mais quand elle se met à chanter, c'est une lionne. Alors j'ai pu interviewer Anisha quelques heures après sa victoire et elle m'a dit se reconnaître dans la description faite par le chanteur et elle m'a confié donc l'importance de la musique dans sa vie.
La musique, déjà, ça m'aide à m'exprimer, à exprimer mes émotions et surtout, c'est ma meilleure amie, la musique, c'est ma meilleure amie, c'est tout ce qui m'accompagne, c'est une thérapie, c'est un moment de partage aussi avec les gens. Moi, je suis une âme qui aimerait toucher d'autres âmes, leur apporter quelque chose de bien. Et la musique, pour moi, ça a été un médiateur. Et c'est toujours un médiateur, d'ailleurs. Et la Star Academy, aujourd'hui, m'a permis justement de faire de la musique et toucher des cœurs des gens.
Toucher le cœur des gens, c'est peut-être ce qui a fait la différence pour gagner. Pendant l'émission, il y a eu plusieurs fois des allusions à son enfance compliquée, un manque d'amour et de considération. C'est ce qu'elle disait dans son portrait lors du premier prime. Puis elle a ému les élèves et les téléspectateurs lors d'un cours de théâtre en présentant une guitare avec un morceau cassé comme une métaphore de ce qu'elle est. Alors elle reste pudique sur son histoire, elle ne souhaite pas en dire plus sur son enfance, mais elle espère avoir réussi à faire passer des messages positifs en participant à la Starac.
La Star Academy, pour moi, ça a été aussi une mise à nu, mais une mise à nu qui m'a permis de porter ce message au final. C'est l'espoir et le courage de se dire, quelles que soient les épreuves, les difficultés de la vie, il ne faut jamais baisser les bras, il faut y aller avec la foi, l'espérance et beaucoup d'amour aussi. C'était important pour moi. Mon passé, mon vécu fait aussi que c'est devenu ma force aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qui importe le plus, c'est que la vie m'offre en tout cas ce beau cadeau et je suis tellement pleine de gratitude.
Anisha, gagnante de la Star Academy, donc, qui a remporté 100 000 euros et qui va pouvoir faire son album. Alors elle m'a dit vouloir lui donner une couleur pop-rock avec une touche de folk, de country. Et son nom d'artiste, eh bien, ce sera Anisha tout court comme à la Star Academy ou Anisha Joe. Elle n'a pas encore décidé, c'est le pseudonyme qu'elle utilisait avant de participer à l'émission.
Suite du journal des médias avec cette information, l'ARCOM, l'ex-CSA, à nouveau saisi suite à une séquence dans l'émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste ».
Oui, les dossiers s'empilent sur le bureau du régulateur. Après la France Insoumise, après Jean-Luc Mélenchon, c'est au tour de TF1. La Une a annoncé dans un communiqué ce week-end saisir l'ARCOM suite à l'émission de vendredi dernier. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs y commentaient la nouvelle émission lancée par TF1, le Late Show d'Alain Chabat. Et ils auraient alors diffusé de fausses informations selon TF1. Cyril Hanouna avait notamment affirmé que les invités étaient payés 100 000 euros pour participer à l'émission, ce que dément formellement TF1 et les producteurs aussi de l'émission qui précisent que toutes les personnalités invitées ont participé à titre gracieux et amical à ce show. Fin de citation. TF1 qui dénonce aussi une volonté de dénigrer l'émission. La chaîne demande donc à la direction de C8 de relayer le dément pendant l'émission ne touche pas à mon poste de ce soir. Et puis elle annonce saisir l'ARCOM donc devant le caractère répété des provocations et attaques contre les antennes du groupe TF1. Voilà ce qu'elle écrit, afin qu'elle agisse pour faire cesser ses agissements inacceptables. Réaction de Cyril Hanouna sur Twitter. Eh bien, il promet d'en reparler ce soir dans son émission. Et puis il s'interroge, quand vous faites venir un groupe de Los Angeles, c'est gratuit. Puis il ajoute, on va affiner notre enquête et on donnera tous les chiffres. Et les audiences, on les a inventées. Désolé de donner les vraies audiences. La Une a aussi indiqué dans son communiqué se réserver le droit de défendre ses intérêts par toute autre voie, comprendre judiciaire.
Dans l'actualité des médias également, Louise, un nouvel accord sur la chronologie des médias bientôt trouvé avec Disney.
Oui, c'est cette règle qui décide quand et où peuvent être diffusés les films après leur sortie au cinéma. C'est un dossier épineux qui voit s'affronter les chaînes de télévision et les plateformes, et surtout Disney+, car elle n'avait pas encore signé l'accord, comme ça, contrairement à sa concurrente Netflix en janvier dernier. Alors d'après Les Échos et l'Opinion, cette fois, la plateforme Disney est sur le point de s'entendre avec TF1, France Télévisions et M6, et donc l'accord pourrait être modifié, amendé suite à ces négociations. Une modification des règles qui porte sur les films à gros budget, c'est-à-dire plus de 25 millions d'euros, et ce sont les films produits par les studios, parce que Disney produit des films et possède une plateforme. C'est là tout le nœud du problème, car l'entreprise voulait pouvoir proposer à la fois ses films au cinéma et sur sa plateforme. C'est interdit en France avec la réglementation qui impose en plus que lorsque les films sont diffusés à la télévision gratuite, Disney doit alors retirer temporairement son film de la plateforme. Ça laisse l'exclusivité aux chaînes.
Aux chaînes,
quand c'est diffusé sur les chaînes. Un accord aurait donc été trouvé pour ces films à gros budget des studios. Les chaînes de télé auraient alors accepté d'attendre plus longtemps avant de proposer le film à leurs téléspectateurs. 2 mois de plus, donc il faudra désormais attendre 2 ans au lieu de 22 mois. En échange, Disney accepte de retirer le film de sa plateforme au moment de la diffusion du film à la télévision, pendant 60 jours. Bon, il faut néanmoins que l'accord soit désormais mis par écrit. Ça n'est que de l'oral pour l'instant, selon les deux journaux. Et ce sera fait probablement le 6 décembre, d'après l'Opinion et les Échos.
Et on termine avec notre feuilleton côté réseaux sociaux. Elon Musk tente d'apaiser les polémiques qui concernent les comptes certifiés.
Le nouveau patron de Twitter a annoncé que tous les comptes qui paieront pour avoir un compte certifié seront validés, vérifiés manuellement avant d'obtenir la certification qui permet d'avoir un petit badge affiché à côté de son nom. Puis il y aura un code couleur aussi pour ces badges, pour différencier les types de comptes. Doré pour les entreprises, gris pour les institutions, bleu pour les particuliers, qu'ils soient célèbres ou non. Tout ça sera lancé vendredi. Avec ces annonces, Elon Musk répond en fait aux vives critiques qui anticipaient de possibles usurpations d'identité, car il avait annoncé que n'importe qui pourrait payer pour avoir un compte certifié, alors qu'aujourd'hui, seuls les comptes aux identités vérifiées peuvent prétendre avoir un badge de certification. C'est-à-dire qu'avec le système de Musk sans vérification, j'aurais par exemple pu créer un compte Philippe Vandel, j'aurais pu payer pour avoir un compte certifié et de nombreux utilisateurs auraient pu penser que c'était bien Philippe Vandel. J'aurais alors pu écrire des horreurs absolues et désormais ce sera donc impossible. Enfin, en théorie, il faut que les vérifications manuelles des comptes soient quand même efficaces.
Quelque chose me dit qu'on va encore reparler de ces comptes certifiés
tous les jours,
au nom de Twitter. Merci beaucoup Louise, toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, nous serons avec l'écrivain, essayiste, professeur de philosophie, mais également éditorialiste, journal Franc-Tireur. Franc-Tireur qui fête ses 1 an. L'occasion de décortiquer les raisons de son succès et de saluer la publication de ce nouveau numéro hors série. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
La presse écrite est en crise, je n'apprends rien à personne, et pourtant un lancement semble résister à la crise. Ça démarre comme un Astérix. L'hebdomadaire Franc-Tireur,
c'est nous le village gaulois,
célèbre sa première année d'existence. Ce journal est lancé par Raphaël Antoven, dont vous venez d'entendre la voix, Christophe Barbier et Caroline Fourest. Pas de photos, du dessin de presse.
Et Éric Decouty au
départ. Éric Decouty, 8 pages seulement, avec une grande enquête et des articles plus courts. Voici ce que propose Franc-Tireur, le tout pour 2 euros, de grandes signatures. Pas de publicité, et voici que sort leur premier hors-série, comme pour fêter ce premier anniversaire avec nous. Donc, Raphaël Antoven, bonjour.
Bonjour.
Essayiste, écrivain, professeur de philosophie et donc éditorialiste de ce journal Franc-Tireur. Les magazines généralistes, c'est pas ce qui manque, et tant mieux. On sait que le prix du papier a flambé, que la presse écrite n'est pas au mieux de sa forme. Quel fut le point de départ de Franc-Tireur ?
Le sentiment qu'il manquait quelque chose, qu'il manquait à la presse un lieu... qui fut à la fois républicain, voltairien, rationnel, attaché au dialogue et pas bégueule au sens où on aime bien se battre, si vous voulez. C'est toute la particularité du journal. Il défend le débat, il aime bien la bagarre. Et le journal est né de ça. Et il se trouve qu'il n'y a aucune étude de marché, rien du tout. C'est juste qu'on avait l'intuition que ça correspondait, il y avait un lectorat pour ça, que ça correspondait à un désir et qu'il fallait faire le journal dont on avait envie. C'est ce qu'on a fait.
C'est aussi une économie douce, 8 pages seulement, avec une grande enquête, des articles courts, pas de photos,
non.
Du dessin de presse, du papier non glacé, du papier, je ne connais pas le nom, papier normal.
Ouais.
On pense évidemment au Canard enchaîné. Quelle différence avec ce grand ancien ?
Ouf. Toutes les différences du monde. Le canard, c'est le canard. Le canard, c'est le canard enchaîné. C'est tout à fait
non,
autre
mais
chose.
8 pages d'infos avec de l'humeur.
C'est vrai, vous avez raison. Vous avez
ça
raison.
Ressemble beaucoup. Il y a pas de photos dans les deux cas.
Il y a plusieurs oncles, plusieurs parrains mentaux à la création de ce journal. Il y a le 1 aussi d'Éric Fotorino, bien sûr. On y a pensé beaucoup sur la façon dont le journal s'ouvre, dont il est organisé. Le canard, bien sûr. Mais d'autres aussi. C'est pas le... On avait plein de journaux en tête, mais en revanche, aucun journal ne ressemble à celui-là, parce qu'il avait ce tropisme républicain très enraciné, qui me paraît important.
Il n'y a pas de publicité dans Franc-Tireur, je l'ai dit. Les signatures sont souvent des plumes connues, voire très, très, très connues. Il y a par exemple François Hollande qui écrit un papier sur la relation France-Allemagne.
Oui.
Ça coûte cher d'avoir François Hollande parmi ses collaborateurs.
Pas du tout, il est à la pige, pas du tout. Il est à la pige comme tous les pigistes. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il intervient sur les questions économiques, François Hollande, dans notre journal. L'enjeu était de l'entendre sur ces questions. Après tout, c'était son premier métier. Et il a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et c'est très intéressant aussi. Puis c'est amusant.
Il n'oublie jamais de faire des blagues, François Hollande.
Il n'oublie pas de faire des blagues. Et puis surtout, c'est intéressant, je trouve, moi, après, à plus longue échéance, on verra ce que ça donne, mais de récupérer quelqu'un qui est moins soucieux de pouvoir et dont la parole se libère lentement, je pense.
Là, son papier, ça concerne la France et l'Allemagne, leurs divergences et comment le couple franco-allemand peut repartir sur de bons rails. Ce qui est hallucinant, c'est sa phrase de conclusion. Quand un couple se déchire, c'est l'intérêt des enfants qui permet de ramener chacun à la raison.
Oui.
Donc il y a une petite référence à Provi, plus un petit tacle contre Laurent Fabius.
Peut-être, c'est possible, Je vous en laisse l'interprétation, invitez-le pour en parler.
Vous vous souvenez pas de ce
qu'avait dit Laurent Fabius ? Qui gardera les enfants, bien sûr.
Quand Ségolène Royal
s'était présenté à la candidature, Laurent Fabius avait dit « qui gardera les enfants ?» C'est pas la phrase la plus glorieuse de sa carrière.
2 euros le journal, sur série que vous payez 8,50 euros. Page 7 de ce numéro, Caroline Fourest salue vos équipes par un petit mot et donne les chiffres de vente. Vous les connaissez ?
Pas exactement. Je sais qu'ils sont bons et je ne veux pas avoir le détail. Enfin, vous allez me le donner, mais je n'ai jamais cherché à avoir le détail. Ça me parasite le travail.
18 000 exemplaires vendus par abonnement, parfois 20 000, 30 000 ventes en kiosque. Vous êtes dans les clous de ce que vous étiez fixé quand vous avez lancé le journal ?
On est largement au-dessus de ce qu'on nous avait donné comme limite inférieure. Très largement au-dessus. Le prix du papier fait que les choses sont difficiles en termes budgétaires pour tous les journaux qui osent paraître dans les kiosques. Mais enfin, on est largement au-dessus de ce qu'on nous avait demandé. Et ce qui est amusant et très intéressant, c'est que nous n'avons fait pour cela qu'être nous-mêmes. C'est-à-dire que nous n'écrivons que ce que nous avons envie d'écrire. C'est ça qui est merveilleux. C'est un journal où vraiment, chacun est sommé d'être lui-même. Et c'est en étant nous-mêmes, c'est-à-dire en ne faisant aucun effort pour dissimuler ce qu'on pense, tamiser ce qu'on pense, en étant juste nous-mêmes, clairement, que le journal fonctionne, ce qui fait de cet endroit une abbaye, quoi.
Mais alors, il faut batailler, parce que le sous-titre de Franc-Tireur est celui-ci, « La raison est un combat ».
Oui.
Expliquez-nous. La raison est-elle un combat ?
C'est parce que la raison, aujourd'hui, fait l'objet d'une récusation. Si vous voulez, il y a 30 ans, on discutait, vous discutiez avec un marxiste, vous discutez argument contre argument, rationalité contre rationalité. Aujourd'hui, vous êtes face à des gens qui récusent la rationalité. C'est-à-dire, quand vous vous adressez à un antivax et que vous raisonnez un peu, vous lui donnez des chiffres, il vous accusera, avec vos chiffres, de vouloir l'écraser, de vouloir l'oppresser. C'est-à-dire qu'il est fait à la raison un procès d'intention dont elle ne peut pas sortir, dans la mesure où, chaque fois que vous dites que 2 et 2 font 4, on vous accuse de conservatisme. Donc vous êtes obligé, quand vous utilisez la raison, quand vous vous servez de la raison, de vous défendre désormais. C'est tout le paradoxe. C'est le paradoxe de l'époque et c'est le paradoxe du journal. Encore une fois, on est des voltairiens. On est là pour discuter. On adore le dialogue. Mais en même temps, il ne faut pas nous chercher, si tu veux. On relève de ces deux dimensions.
Et je fais le parallèle avec il y a 30 ans.
Il y avait
parfois de la mauvaise foi chez les marxistes, mais il y a 30 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas.
Il y a 30 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas et donc l'identitarisme ne recevait pas le coup de main prodigieux d'un dispositif qui vous permet à jamais de rester au milieu de vos certitudes. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas de l'ouverture, c'est la possibilité d'une clôture éternelle. Vous pouvez, avec un réseau social, vous en tenir à ce que vous croyez et prendre ce que vous croyez pour la vérité. C'est en ça que la raison est si difficile d'emploi. La raison, c'est le terrain commun. Et les réseaux sociaux disloquent le terrain commun tout en se déguisant en espace ouvert.
Alors, je l'ai dit, il y a ce numéro hors série qui vient d'être publié. D'hier à aujourd'hui, le combat des lanceurs d'alerte. Pourquoi ce choix et que raconte Franc-Tireur que les autres ne disent pas ? Réponse dans quelques instants. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Raphaël Antoven, éditorialiste, l'un des fondateurs de Franc-Tireur, l'hebdomadaire qui fête sa première année d'existence et c'est pas prêt de s'arrêter, puisque
non.
Vous l'avez dit, les chiffres étaient bons. Vous sortez votre premier hors-série,
oui.
Intitulé « D'hier à aujourd'hui, le combat des lanceurs d'alerte ». C'est très intéressant, les lanceurs d'alerte, mais pourquoi ce sujet en numéro 1 ?
Parce que j'étais obsédé par le personnage de Cassandre. Cassandre, c'est la fille du roi de Troie, et c'est celle à qui Apollon crache dans la bouche, et la condamne à voir l'avenir sans jamais être entendue. J'étais obsédé par l'idée de ces gens qui sont clairvoyants, qui voient tout, et qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas.
Attendez, je vous interromps. Cassandre, c'est pas des gens, c'est un personnage mythologique.
Ah non, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire quiconque avait une vérité à dire, Galilée, Galilée face à l'Église, Montaigne face à l'islamisme, Jaurès face à l'approche de la Première Guerre mondiale, enfin qu'il pressentait, à tous les siècles, Camus et la bombe atomique, Montesquieu et la bombe atomique déjà au XVIIIe siècle. Bref, ce sont les lanceurs d'alerte se sont très souvent retrouvés dans la position de Cassandre. Voltaire, au moment de l'affaire Calas, il a dû faire un vacarme épouvantable pour qu'enfin il soit entendu. C'est-à-dire que la condition du lanceur d'alerte, c'est de voir ce que les autres ne voient pas et de dire ce que les autres n'ont pas envie d'entendre. C'est Cassandre.
Vous citez plusieurs lanceurs d'alerte historiques dans votre texte en quatrième de couve, de Cassandre, vous l'avez dit, à Tocqueville, en passant par Greta Thunberg ou Julian Assange. Et vous avez cette formule, impuissant mais pertinent, les lanceurs d'alerte donnent à comprendre l'événement qu'ils ne savent pas éviter.
Oui.
En quoi le rôle d'un lanceur d'alerte est-il vain? En quoi le rôle d'un lanceur d'alerte n'est-il pas vain?
Le rôle d'un lanceur d'alerte est vain dans la mesure où vous avez un texte de Montaigne, par exemple, qui décrypte l'islamisme, l'arnaque de l'islamisme, pas de l'islam, de l'islamisme, c'est-à-dire la promesse d'une partouze éternelle une fois qu'on a tué pour ça. Bon, il est le premier à dire ça, c'est le premier, il le décrypte, il parle des glues que propose Mahomet. C'est un texte qui aujourd'hui encore est utile, qui aujourd'hui encore sert à toute une littérature républicaine qui permet de comprendre les choses, mais c'est un texte qui en lui-même n'a eu aucun effet. Le propre des comme Raymond Aron, quand il plaide pour le réarmement de la France dans les années 30 face à l'Allemagne, il n'est pas entendu.
Oui, il y a aussi des lanceurs d'alerte dont, dont ce qu'ils ont dit a été suivi d'effet. Exemple, la personne qui a révélé toutes les photos qui se passaient dans la prison d'Abu Ghraib, les Américains l'ont racheté.
Voilà. Chelsea, alors, c'est là que le hors-série est en deux temps. Il y a les trois premières parties qui concernent vraiment deux millénaires de lanceurs d'alerte qui font ce qu'ils peuvent. Et puis, il y a le 21e siècle où les lanceurs d'alerte se voient désormais nantis par les réseaux sociaux, de la possibilité de se faire entendre, ce qui pose d'autres problèmes. Mmh. Ce qui pose d'autres problèmes, c'est-à-dire que tant qu'ils étaient inaudibles et pertinents, bah, d'une certaine manière, ils ne changeaient rien, mais on les lisait, alors que maintenant, ils sont très audibles, mais tous ne sont pas pertinents, ça pose d'autres soucis.
Et puis parfois, il y a des fausses alertes.
Parfois, il y a des fausses alertes. Attention, puis, il y a des lanceurs d'alerte.
Attention, il y a des puces 5G dans le vaccin.
Alors voilà, c'est que vous avez des gens alertes, c'est-à-dire que vous avez des gens qui se vivent comme des lanceurs d'alerte uniquement parce qu'ils disent n'importe quoi, ou parce qu'ils ont le sentiment qu'on leur ment. Vous avez des gens qui sanctifient leur méfiance, qui sacralisent leur méfiance au point de croire qu'ils sont lanceurs d'alerte dès qu'ils ne croient pas ce qu'on leur raconte. Bon, c'est un syndrome démocratique, c'est un problème démocratique, n'est pas lanceur d'alerte qui veut.
Ce week-end, vous avez tweeté en réponse au groupe Dernière Rénovation. Alors, je rappelle qui est ce groupe, un groupe militant qui prétend être, je les cite, « la dernière génération capable d'empêcher un effondrement sociétal ». On les voit parfois qui bloquent le périphérique ou d'autres voies rapides pour attirer l'attention. Vous avez tweeté ceci « Dernière Rénovation ne cherche qu'une seule chose, qu'un conducteur craque et leur roule dessus. Ouais. L'unique objet de ces blocages absurdes est d'avoir la vidéo d'un martyr, d'un défenseur de la planète qui se fait rouler dessus. Ils nous pourrissent la vie pour obtenir leur mort
».
Au-delà de ça, leur combat est peut-être juste.
Mais ce n'est pas la question. Je ne conteste pas le combat. Je dis juste que les méthodes sont celles de la communication. Et quand vous luttez dans ces cas-là, vous savez, dans un combat, c'est comme quand les gens s'engueulent. Le gagnant, c'est celui qui a pris le plus de coups, pas celui qui en a donné le plus à l'ère démocratique. Eh bien, aujourd'hui, dans un combat public comme ça, le gagnant, c'est celui qui a le plus de blessés. Donc évidemment, avoir un mort, c'est tomber sur la case départ du Monopoly. C'est ça qu'ils recherchent. C'est pour ça, par exemple, que les étudiants qui avaient été évacués de Tolbiac voulaient à tout prix que la police ait tué quelqu'un. Ils avaient réclamé à la PHP un mort qu'on ne trouvait pas. Et ils étaient allés demander la vérité, c'est-à-dire la vérité qui les arrange. Dans le combat, dans un combat démocratique à l'ère de la communication, de l'hypercommunication, vous recherchez le martyr. Vous recherchez le martyr et c'est logique. C'est aussi la raison pour laquelle ils sont là. Leur rêve, c'est quoi? C'est que l'un d'eux, sans mourir, allez, se fasse au moins un peu rouler dessus et que la vidéo devienne virale, c'est sûr.
J'arrive à la dernière partie de ce franc-tireur. Il y a ce personnage, Edward Snowden.
Ouais.
Edward Snowden a dénoncé les agissements de la NSA américaine.
Ouais.
Il a trouvé refuge en Russie.
Ça ne s'est pas fait tout à fait comme ça. Il est d'abord parti à Hong Kong.
Mais maintenant, il est en Russie.
Oui.
Et il dénonce beaucoup de choses, mais rien sur l'État poutinien. J'ai posé la question comme si vous étiez avec votre fils ou votre fille de 6 ans. Snowden, c'est un gentil ou c'est un méchant?
Ah, mon chéri, Snowden c'est un idiot utile. C'était un gentil, c'est devenu ce qu'on appelle un idiot utile. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui, avec un grand courage, a dénoncé des infamies, ce qu'on appelait les grandes oreilles de la NSA. Des infamies, des choses épouvantables, a permis la diffusion de secrets qui sont très utiles. Et puis, c'est quelqu'un qui est allé chercher la liberté en Russie. c'est-à-dire, et qui, depuis qu'il est en Russie, a prédit que la Russie n'envahirait pas l'Ukraine et n'a plus fait savoir son opinion depuis 9 mois que les Russes massacrent allègrement les Ukrainiens. Donc c'est un lanceur d'alerte devenu un idiot utile.
Franc-Tireur a été créé une année d'élection présidentielle qui se présentait comme le lieu de toutes les interrogations, les contradictions politiques. Maintenant que l'élection présidentielle, enfin la campagne est derrière nous, quoiqu'elle arrive déjà au grand galop alors que c'est dans 4 ans, quels vont être les sujets qui vont, entre guillemets, remplacer la politique ?
Je ne crois pas qu'on puisse remplacer vraiment la politique. En fait, le journal, pour être tout à fait honnête avec vous, le journal a été créé sur cette ligne voltairienne, mais concrètement aussi, politiquement, avec l'intention très ferme de lutter contre les extrêmes. Voilà, c'était le but du journal, c'était la raison d'être. Et compte tenu de la mandature dont on a hérité et de la façon dont le Parlement est constitué, si vous voulez, le combat contre les extrêmes ne se termine pas avec la fin des élections. Donc on n'en a pas fini. Et puis surtout la politique, ça se fait hors période électorale aussi. C'est pas parce qu'on ne change pas de pouvoir qu'on ne discute pas. C'est là qu'on intervient. C'est à l'échelle de l'opinion, en deçà de la loi, enfin à l'abri de la loi, dans le respect de la loi, mais en revanche avec des arguments où on met les pieds dans le plat.
Franc-Tireur, c'est également une chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on y trouve qu'il n'y a pas dans le journal ?
Des entretiens dans la longueur. Vous avez dans Franc-Tireur des entretiens, je trouve, de très grande qualité, qui sont conduits par Yasmina Jaffar notamment, et puis par beaucoup de nous.
Là, je dois le dire, il y a l'interview du meilleur joueur d'échecs de tous les temps, Garry Kasparov. Ouais. Kasparov, qui est aujourd'hui le plus grand opposant à Poutine.
Absolument. Ça, c'est Simone Redan qui a fait cet entretien qu'on a publié. Et Garry Kasparov, c'est très intéressant, Garry Kasparov, parce que Garry Kasparov a une analyse de Poutine, il le tient pour un joueur de poker et non pas un joueur d'échecs. C'est un joueur de poker qui bluffe assez mal, dit-il. Et c'est très juste comme lecture, je trouve. Et c'est un entretien passionnant, c'est vraiment...
Pardon, j'ai fait une incise après une question sur YouTube. Est-ce que l'interview de Kasparov est sur votre compte YouTube ?
Non, pas celle-là, à ma connaissance. Non, pas celle-là, parce qu'elle a été réalisée dans des conditions qui ne permettaient pas qu'on la filmât. Mais en revanche, il y en a d'autres qui s'y trouvent. Et en vérité, tous les contenus sont dans la longueur. C'est-à-dire qu'on a accès tout simplement à plus de matière. C'est aussi simple que ça.
Je vous remercie, Raphaël Antoine. Je voulais faire une vanne, mais je me suis dit qu'elle était hors série. Je rappelle que ce journal Franc-Tireur et que son magazine hors série sont disponibles en librairie. Merci beaucoup.
Merci
d'avoir
de votre invitation, avec plaisir.
Nous ce matin. Dans un instant, tout à fait autre chose. Les réalisateurs d'une série documentaire en 4 épisodes, devenir ostréiculteur. Comment intéresser le public en filmant des huîtres qui ne disent pas un mot, qui bougent peu et qui sont souvent sous l'eau. C'est justement ce qui nous a passionnés. A tout de suite sur Europe 1. Il y aura aussi Bruno Donnet pour ses télescopages.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Dans un instant, nous recevons Antoine Dabin et Jean-Michel Venemani, réalisateurs d'une série documentaire en 4 épisodes sur le métier d'ostréiculteur. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques. Et ce matin, vous avez eu envie de vous pencher sur l'art très délicat de la promotion des artistes dans les médias.
Oui, et si j'ai eu cette idée-là, Philippe, c'est parce que je me suis fait matraquer tout week-end par un phénomène extrêmement étrange. Figurez-vous que quelle que soit la station de radio que j'ai voulu écouter ou le programme de télévision que j'ai regardé, je suis tombé un nombre incalculable de fois sur un certain Claudio Capeo, un chanteur rendu célèbre par l'émission The Voice et qui a connu un immense succès grâce à cette chanson.
Il fut un temps où je t'aime comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout.
Car l'info, mes cocos, c'est que Claudio Capeo a une actu. Il sort un nouvel album. Il est donc allé le dire à M Radio.
Alors aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. On est chez M Radio.
Mais également sur RTL.
Sur RTL avec Jade
et
Eric.
Et je l'ai vu aussi sur les antennes de BFM TV, de France 2 et de TF1.
Trop de scènes, trop de succès, trop de tout, quoi.
C'est ça. Ouais.
Et partout, son opération promotion a consisté à raconter rigoureusement la même histoire. Ça a commencé sur RTL où Claudio Capeo s'est livré samedi très intimement.
D'ailleurs, à un moment, ça a été trop pour vous, hein. Vous le dites, vous avez frôlé le burn-out, hein.
Ouais, non, j'ai complètement pété les plombs, j'ai pensé au suicide, je suis parti très très loin parce que c'était parce que j'étais pas prêt à tout ça.
Il a frôlé le suicide. Puis ça a continué hier après-midi sur France 2 dans l'émission Un dimanche à la campagne.
J'ai eu des idées très noires et puis en fait je voulais plus rien quoi, je voulais juste que ça s'arrête quoi.
Mais également hier soir sur TF1 dans le portrait de 7 à 8.
Qu'est-ce qui vous fait si peur à l'époque ?
C'était de me foutre en l'air en fait, hein. Parce que j'en avais ras-le-bol en fait.
Vous pensiez à mettre fin à vos jours ?
Ouais, j'ai pensé plusieurs fois, ouais.
Voilà, alors j'ai été très amusé par cette petite affaire, Philippe, parce qu'elle révèle une mécanique paradoxale absolument passionnante. Pour intéresser les médias, un artiste doit incarner un personnage. Et plus il montre d'aspérité, plus ça marche. Le storytelling que Claudio Capeo s'est donc choisi, c'est celui d'un type qui ressemble tellement à tout le monde qu'il déteste le système médiatique qui, je le rappelle, lui a tout de même permis d'émerger, puisque vous savez qu'il a débuté dans The Voice.
J'acceptais pas tout ce luxe-là, ces trucs-là qui servent à rien.
Voilà, ça sert à rien. Il déteste ce système parce qu'il ne lui ressemble pas, parce qu'il n'a aucun sens et parce qu'il a bien failli lui être fatal.
Ce tourbillon du succès vous rend dépressif à ce moment-là ?
Complètement. Complètement, parce que c'est pas ma vie. C'est bien, Claudio, t'es beau, Claudio, c'est magnifique, Claudio.
Mais comme il déteste ce système qui l'a rendu complètement dingue, tous les médias qui composent le système s'intéressent à lui, parce qu'il est singulier. Donc, hier soir, immédiatement après l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2, Laurent Ruquier l'a convié, lui aussi, et toujours sur France 2, dans Les Enfants de la télé.
Et Claudio Capeo nous propose un nouvel album,
ouais,
Rose des Vents.
Quant à Claudio Capeo, qui a bien failli périr à cause de ce système complètement fou, eh bien il l'alimente allègrement de ses révélations intimistes.
Même mes parents ne le savent pas, j'en ai jamais parlé. En fait, je ne voulais plus rien, quoi. Je voulais juste que ça s'arrête.
Reste donc à comprendre qui est le plus zinzin dans cette affaire, celui qui, pour nous vendre ses disques et donc renouer avec le succès, se complaît à raconter partout son histoire de succès qui a bien failli le rendre fou, ou ceux qui, pour faire de l'audience, l'invitent tous en même temps pour écouter ses turpitudes, persuadés qu'ils sont, qu'elles en disent long sur une mécanique qu'ils font tourner à toute berzingue.
Magnifique analyse, magnifique paradoxe. Merci Bruno Donnet.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Antoine Dabin.
Bonjour.
Bonjour Jean-Michel Venemani.
Bonjour Philippe.
Vous êtes tous les deux réalisateurs. Votre actu, c'est cette série documentaire en 4 épisodes, Devenir ostréiculteur, ce soir à 21h sur France 5. C'est une collection Devenir. Il y a 6 séries docs et 4 fois 26 minutes, 4 épisodes diffusés l'un à la suite de l'autre, dans laquelle on suit des personnages originaires de toute la France qui se lancent dans un métier. Il y avait Devenir pompier de Paris, styliste, ostréiculteur, marin pêcheur, gardien de la paix ou encore bâtisseur. À la base, c'est moins spectaculaire. Je me souviens de cette série Claire Fontaine sur Canal+. On voyait des jeunes footballeurs, des cadets ou des minimes. Il y avait déjà Karim Benzema, Ben Arfa. Ils rencontraient les grands, il y avait des terrains. Mais si j'ai choisi devenir ostréiculteur, c'est parce qu'une huître, c'est sous l'eau. Ça bouge pas. Bruno Donnet pourrait nous le dire. C'est moins spectaculaire que devenir pompier. Absolument. Où il y a des camions, il y a des casses, c'est rutilant, il y a de l'incendie, il y a des gens qui ont peur, il y a une happy end. Ou devenir styliste. Il y a de la mode, il y a des mannequins, il y a de l'argent, il y a de la richesse. Il se passe plein de choses. C'est évidemment une question que vous êtes posée. Comment filmer des jeunes ostréiculteurs en devenir ? Qui veut commencer ?
En fait, c'est pas tant montrer des jeunes qui veulent devenir ostréiculteurs, c'est montrer des jeunes qui tout d'un coup, se décide à choisir un métier. En fait, on a fait le portrait d'une jeunesse qui est déterminée, qui se transforme, puisqu'on a tourné un an et demi, et on les voit évoluer, et on se dit au départ, bon, c'est des ados, ils sont pas finis, ils ont du mal à s'exprimer, on le voit très bien dans la série. Pour autant, on les voit se transformer et vraiment montrer leur détermination. Et c'est ça qui nous a intéressé, c'est montrer cette jeunesse. Parce qu'on décrit la jeunesse comme étant pusillanime, perclus de doutes, etc. Et ben pas eux.
Mmh. Mais l'arrière-plan, l'arrière-fond, parce qu'on fait aussi de la télé qui est un spectacle, c'est pas reluisant. On voit des casiers d'huîtres, c'est pas beau comme des camions de pompiers qu'on est en train de passer au jet d'eau. Comment on filme dans ces cas-là ?
Alors c'est aussi, on met en valeur le paysage, que l'endroit où on était, c'était la Vendée, qui quand même offre des paysages magnifiques, la côte vendéenne. Donc c'est vrai qu'on a quand même utilisé pas mal de drones pour faire aussi des respirations entre les différents personnages. Donc c'est vrai que filmer des huîtres en soi, c'est pas forcément très excitant. Mais la série s'arrête pas uniquement sur les huîtres, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas en quoi consiste le métier d'ostréiculteur. C'est vraiment sur cette jeunesse qui fait ce choix à 15 ans, comme Hugo, un des personnages du film, fait. Donc c'est plutôt ça qu'on suit plus que le métier, quoi.
Vous parlez d'Hugo. Qui sont vos trois personnages ? Il y a Hugo, Théo, Mélanie. On va commencer par les deux garçons. Qui est Hugo ? Après je demanderai qui est Théo et après on va parler de Mélanie.
Alors donc Hugo, il a commencé l'ostréiculture donc en alternance la maison familiale et rurale de Chaland. Il avait 15 ans, donc il y a un an et demi quand on a commencé à tourner. Lui, l'enjeu qu'on avait avec Hugo, et ça rejoint aussi pour la télé, en fait c'est un jeune qui ne parlait pas. Difficilement des phrases de plus de 3 mots, donc c'était compliqué même pour nous. Donc avec Jean-Michel, on a dû lutter. C'est aussi
mais
l'intérêt.
Parfois, il a du mal à articuler. Parfois, on ne comprend pas ce qu'il dit.
Voilà, c'est aussi. Mais c'est un jeune aussi. Nous, on filme des jeunes, mais c'est aussi des jeunes qui sont aussi en. C'est l'adolescence, donc ils sont en train de grandir. Et du coup, il y a une ça pas lui, Hugo fait 1m80, donc c'est l'acceptation de son corps. Donc c'est toutes les problématiques aussi des jeunes qu'on a. Donc on leur demande quand même de parler d'un choix qu'ils font, qui eux-mêmes ne savent pas vraiment pourquoi. Donc on est avec une caméra. Alors dis-nous pourquoi tu fais ce choix. Donc tu comprends qu'il ait du mal à parler aussi, quoi.
Vous avez quand même réussi à le convaincre de se laisser filmer. Comment vous avez fait le casting ?
Ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été simple. Il a fallu y aller à plusieurs reprises et puis se faire accepter. Au départ, il fuyait la caméra, Hugo, quand même. Mmh. Donc, et puis, à force de persuasion, de présence, on a réussi à le retourner.
Mais là, vous êtes à la MFR de Challans en Vendée. La MFR, ça veut dire la maison familiale et rurale. C'était pas les il n'y avait pas seulement Hugo et Théo. Comment vous avez choisi ?
Alors, c'est Antoine qui est allé la première fois. Parce qu'Antoine est vendéen, il faut le rappeler. Mmh. Donc, il était sur ses terres. Vas-y, Antoine.
Donc, à la base, je voulais faire un documentaire sur la jeunesse dans la ruralité pour faire un peu l'état des lieux, on va dire. Voilà, moi, je l'ai quitté il y a 15 ans. Je voulais voir un peu qui sont maintenant les jeunes. Et en fait, c'est Francien qui a lancé l'appel d'offres sur l'alternance. Et j'avais déjà contacté la MFR pour rencontrer des jeunes. Et vu qu'ils proposaient l'ostréiculture, je me suis dit, bon, bah, bingo, on n'en entend jamais parler, encore moins des jeunes. Mmh. Et donc, du coup, ils m'ont proposé différents jeunes. Et donc après, Mélanie, qui n'est plus à la MFR, donc qui dans le film représente l'après-MFR.
Je vais parler de Mélanie après, mais juste avant, Théo n'a pas envie d'être filmé, il a du mal à s'exprimer. Hugo, pourquoi vous l'avez choisi, lui ?
Non, Hugo, Hugo.
Hugo, pardon. Ouais,
Hugo. Parce que je pense qu'aussi, on a l'habitude de voir des jeunes qui cherchent la caméra aussi, peut-être, qui ont besoin de parler. Et je pense que c'est aussi important de donner la parole à des jeunes qui n'ont pas forcément envie de partager ça, qui sont un peu des taiseux. Et je pense que c'est important de laisser des jeunes s'exprimer, même s'ils n'ont pas forcément le goût... à l'expression.
Et pourtant, on peut noter que pour Hugo, il était effectivement très timide, très timoré, etc. Et pourtant, c'est celui qui a la parole la plus précise, la plus fine, et peut-être même la plus intelligente. Le recul qu'il a sur son métier est absolument incroyable par rapport aux deux autres jeunes qu'on a filmés.
Alors, les deux autres, ce sont Théo, il a 17 ans, il est en terminale. Il a le choix entre continuer ses études avec un BTS parce qu'il est doué, or il déteste l'école, ou alors signer tout de suite un CDI. Et puis, il y a Mélanie, elle a 23 ans, elle est plus âgée, elle travaille déjà chez un ostréiculteur. Dans une séquence, on la voit, elle note les commandes au tableau, c'est dans le premier épisode, elle a du mal à écrire. Par exemple, son patron lui dit... Pour douzaine, on ne va pas écrire douzaine en entier sur le tableau, il faut écrire DZS. Et elle écrit DSZ. Et Mélanie a totalement conscience de son handicap.
Quand il y a beaucoup de commandes comme ça, il faut que je note au fur et à mesure. Sinon, après, je m'embrouille. C'est parce que je suis dyslexique. Enfin, en plus, dysphasique, aphasique. Mon cerveau, il ne me retransmet pas correctement parce qu'il n'a qu'une partie qui fonctionne. Donc, ça, en gros, ça s'embrouille un peu là-dedans. Il y a des mots que je ne sais pas écrire.
Dysphasique, aphasique, expliquez, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, du coup, pour faire simple, comme Mélanie le dit dans le documentaire, en fait, c'est juste que dans son cerveau, comme elle explique, ça se mélange un peu. En fait, elle a beaucoup de mal à écrire. C'est-à-dire quand elle ne peut pas écrire champignon, par exemple, donc des mots simples. Mmh. Et donc, en fait, dans sa tête, c'est clair. Donc, elle écrit des mots. Et en fait, à la lecture, donc c'est des lettres mélangées. Et dans son cerveau, c'est dans l'ordre. Donc, en gros, mais elle a fait beaucoup d'efforts depuis...
Non seulement elle a fait des efforts, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a obtenu son bac avec mention. C'était pas très très bien parti. Sa maman raconte une histoire incroyable. Quand Mélanie était à l'école primaire, on écoute sa maman.
En CE2, elle a fait un contrôle de géographie. La question était, qu'est-ce qu'un océan ? Et Mélanie voulait dire que c'était une étendue d'eau, mais elle a sur sa feuille, elle a écrit drap, pri et dru. Donc là, la maîtresse m'a convoquée le soir même pour me dire « je crois qu'on a un problème avec Mélanie ». Et je suis allée au rendez-vous voir la maîtresse et là, on a dit à Mélanie « mais t'as écrit quoi là sur ta feuille ?» Et Mélanie dit « une étendue d'eau ». Et moi, sur la feuille, je voyais « drap, pré, dru ». On ne pouvait pas lire ce qu'elle écrivait. Ça ne voulait strictement rien dire.
C'est une formidable leçon d'espoir, de résilience.
Mais ce que je voudrais rajouter par rapport à cet extrait, c'est que devenir, c'est pas seulement le portrait d'un métier, c'est aussi rentrer dans l'intimité de ces jeunes.
C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, justement.
Oui, c'est pour ça que je voudrais en parler.
J'ai pas pris un extrait « Comment on ouvre les huîtres ?» Non, c'est pas le sujet.
Non, c'est pas le sujet. C'est vraiment se focaliser sur des jeunes qui sont en devenir, qu'on suit pendant un an et demi, et qu'on voit se transformer. Mmh. Et ce moment d'intimité, ça a été difficile de le capter avec Mélanie, mais... Pour autant, elle a accepté qu'on le diffuse.
C'est un documentaire très feel-good, quand même.
Oui, bien sûr.
Il y a plein de bons sentiments. Par exemple, dans l'épisode 4, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a un restaurateur, en fait, il a moitié restaurateur, moitié ostréiculteur, qui vient prendre la commande à une table de clientes.
Alors, mesdames, avez-vous fait votre choix?
L'autre fois, on avait goûté ton chardonnay, il était pas mal. Donc,
ouais.
Une bouteille de chardonnay.
Une bouteille de chardonnay.
Et puis.
Une assiette de 9 huîtres.
Une fois 9 huîtres. Et une petite carafe d'eau?
Voilà,
bah,
c'est vrai qu'on
n'y
pense pas.
Eh bien, ok, ça marche.
Non, mais le restaurateur qui propose la carafe d'eau, moi, j'ai jamais connu ça. Normalement, il dit plate ou gazeuse et c'est payant. Là, c'est gratuit. Et je me suis dit, ils font ça parce qu'il y a la caméra.
Ah non, pas du tout.
Est-ce que c'est comme ça, la Vendée?
Non, quand j'ai tourné, c'était fin août, quand j'ai tourné dans son restaurant. Voilà, c'était pour dire aussi, attention, quand on devient ostréiculteur, ce n'est pas seulement manipuler des casiers d'huîtres toute la journée par moins 5, c'est aussi se copier de la commercialisation. C'est aussi tout ça. Et Hugo, en plus, symbole de la timidité, il fallait qu'il s'adresse à des clients. Donc, c'était ça qui était important à montrer.
Voilà tout ce qu'on voit. Le fond, la forme, ça s'appelle Devenir ostréiculteur. Série documentaire en 4 épisodes, mais 4 épisodes de 26 minutes. Donc, ça se voit tout cela ce soir à 21h sur France 5. Merci beaucoup, Antoine Dabin. Merci beaucoup, Jean-Michel Venemani. Que je ne me trompe pas sur votre nom, d'être venu nous voir en direct dans Culture Média. Merci beaucoup. L'émission continue évidemment. Après les infos de 10h, nos invités seront le cinéaste Christophe Honoré pour l'un de ses films les plus personnels, s'appelle Le Lycéen. Son propre rôle est incarné par une révélation, le jeune Paul Kircher, qui sera également avec nous. Et puis dans Les Indispensables, hommage à Irène Cara avec Stéphanie Loire. Et puis un jeu vidéo pour les amateurs de danse avec Jean Z. Jean-Luc Lemoine aussi arrive pour sa session de rattrapage. A tout de suite.